Troisième heure qu'on va terminer évidemment avec Valérie Roberts, puisque c'est vendredi, c'est toujours le fun. On va parler de cet homme de Shawinigan qui s'est fait tatouer le visage de François Legault sur le bras. Genre, t'es pas game là? Ben lui, il dit « Ah oui, je suis game », puis il l'a fait. Bon, à cette heure, il va faire quoi là? Je sais pas là. Ça peut être longtemps là, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux te tanner. Ah d'accord. C'est un peu plus léger, on s'entend, là, mais c'est vendredi. Bon. On va aller rejoindre le docteur Alain Poirier, également en Estrie. Ça chauffe en Estrie. Ils ont failli virer au rouge. Ils sont restés orange, mais hier, le premier ministre leur a servi un petit avertissement là, de se ressaisir. Docteur Alain Poirier, donc, il va être là. Juste avant de céder la parole à Luc, vous avez été nombreux à réagir à mon propos de début d'émission quand j'ai dit que j'avais pris un rendez-vous pour aller me faire vacciner avec l'AstraZeneca. Ben oui, c'est possible de le faire à la clinique de vaccination Saint-Laurent. Il reste encore, on vient de vérifier, là, il reste encore des places. Vous pouvez aller sur le site Clic Santé et puis là, vous cliquez sur l'onglet là, clinique sans rendez-vous AstraZeneca et là, vous cliquez sur la clinique de vaccination Saint-Laurent. C'est une des cliniques de Montréal. Et puis, vous pouvez réserver. Vous pouvez réserver. Alors, il reste des places, on vient de le vérifier. À l'aréna Bill Dernan également, ça c'est dans le secteur Saint-Laurent. Il reste également, il y avait 13 rendez-vous de disponibles encore aujourd'hui à l'aréna Bill Dernan, là, il y a 5-10 minutes de ça. Donc, si vous allez sur le site, clique santé, vous regardez les heures qui sont disponibles, tu cliques là-dessus, il te demande ta carte d'assurance maladie, tout ça. Et donc, tu as ton rendez-vous, tu arrives, puis te vaccines. C'est pas plus compliqué que cela. Mon cher Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Bon, Luc, tu nous as préparé tout un programme, comme tu le fais à chaque jour, mais moi, je voulais quand même prendre quelques minutes pour te parler du prince Philippe. Je sais que t'es pas un grand fan de la monarchie, mais
je personnalise pas ça, là. Tu sais, c'est l'institution contre laquelle
c'est ça.
Pas les individus.
C'est ça. Mais je trouve qu'il y avait des ressemblances entre toi et le prince Philippe.
Raconte.
Ben, le prince Philippe, des fois, il faisait des déclarations assez controversées. Puis ça t'est arrivé, toi, d'en faire quelques-unes par le passé. Puis là, je me suis dit, il y avait un petit peu de Luc dans le prince Philippe ou un petit peu de prince Philippe dans le Luc.
Là, j'avoue là, que tu me... je suis décontenancé, je sais pas quoi
répondre. Je t'ai pas préparé à ça.
Je
te donne quelques exemples. Mais là, je dis pas que t'aurais dit ça, là. Mais le prince Philippe, parmi ce qu'on appelle ses gaffes, il y a toutes sortes de déclarations qu'il a faites.
Ce type de gaffe-là, j'en ai pas fait, Bernard. Vas-y. Mais,
par exemple, lorsqu'il a dit... lors d'une visite au Canada en 1969, il dit « Je déclare cette chose ouverte, quelle qu'elle soit. » Il avait un sens de l'autodérision. En 2017, il a dit il inaugurait une plaque dans un stade de cricket à Londres. Et là, il a dit « Vous êtes sur le point de voir l'expert mondial des inaugurations de plaques. » OK, ça, c'est pas des gaffes, c'est de l'autodérision.
C'est de l'humour.
C'est de l'humour. Par contre, quand il a dit à un jeune de 13 ans « Tu pourras jamais voler là-dedans, t'es trop gros. » Un jeune de 13 ans qui rêvait de devenir astronaute. OK? Là,
c'est incroyable.
Tu pourras jamais être astronaute.
T'es trop gros.
You're too fat. Okay? Là, c'est épouvantable. Quand on parle de gaffe, là, à un moment donné, il s'adresse à une personne en fauteuil roulant. Il dit, combien de personnes vous avez fauché ce matin avec ce truc? C'est en 2012.
Écoute, moi, je l'ai rencontré, le prince Philippe,
deux,
trois fois.
Oui.
J'ai vu la reine plus souvent, mais le prince Philippe, deux ou trois fois.
Oui.
C'est un personnage énigmatique, assez silencieux, et surtout, j'ai participé à l'organisation, même que j'avais un rôle clé dans l'organisation d'une visite de la reine Élisabeth au Canada avec le prince Philippe. Et je dois te dire que les choses qu'on ne dit pas, mais là, il est décédé, tout ce qu'il y avait comme équipe d'éclaireurs pour préparer la visite de Sa Majesté faisait tout ce qu'il pouvait pour que le prince soit pas exposé à des microphones où il pourrait dire des conneries. Je te le dis, là, c'était comme une quasi-obsession. Alors, et je parle des Britanniques. Là.
Oui, oui.
Et comme ils protégeaient leur reine en s'assurant que Philippe allait se fermer la gueule.
Ils connaissaient leur moineau, là.
Oui, ils connaissaient leur moineau. Par ailleurs, c'est un gars... Bon, évidemment, il a beaucoup vieilli, il est mort à 99 ans, mais moi, je l'ai rencontré la première fois en 77. Alors, ça nous rajeunit pas, Bernard, ça veut dire que ça fait 40 quelques années. Mm. C'était un gars impressionnant, hein, physiquement. Là. C'était un bel homme, mince, qui avait l'air en très grande forme, qui portait les uniformes militaires avec une grâce naturelle absolument incroyable. Moi, on m'a dit que c'était pas ce qu'il y avait de plus brillant au monde. C'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je peux pas rapporter que je l'ai vu faire ci ou ça. L'ai vu, il jouait son rôle, un certain nombre de pas derrière la reine, et voilà, quoi. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. La reine était beaucoup plus ouverte à la conversation. Lui, il se tenait un peu à l'écart, puis il prenait son petit gin and tonic, puis il attendait que, tu sais, que ça finisse, puis qu'on s'en aille ailleurs. Alors, on n'est pas ici devant le génie des Carpates, là, Ça, c'était Ceausescu. J'aurais pas dû dire ça.
Ben oui, c'était le génie des Carpates. Bon, très bien. On a le portrait, là. Mettons qu'il ne t'a pas impressionné outre mesure.
Comme personne, oui. Il paraissait bien. Oui, mais
sur le fond des choses, on va dire.
Je ne l'ai pas entendu faire de gaffe, mais je me souviens de l'entourage britannique qui disait non, non, faut pas l'approcher de là. Non, d'accord. Non, là, il y a des micros. Non, non, non.
OK. Parlons un petit peu de la pandémie. D'abord, les chiffres qui font peur en Ontario.
Avec 4227 cas vendredi.
Ça, c'est le plus gros qu'ils ont eu, là. Hein?
Ouais, 18 décès supplémentaires. C'est 290 cas par million d'habitants. Pour qu'on compare des choses comparables, le Québec est à 190 cas par million d'habitants. Et enfin, la campagne de vaccination, heureusement pour eux en Ontario, commence à fonctionner. Ils ont réussi hier à injecter 105 382 doses. Et le premier ministre Ford a reçu sa première dose, c'était du AstraZeneca.
Bon, très bien. Très
et
bien.
Au Québec, tu sais, on est rendu à un Québécois sur cinq qui a reçu sa première dose. Hein. Puis on a eu un nouveau sommet à 69 000 de doses administrées hier. Et puis, évidemment, les autorités ne cachent pas que l'ouverture de la vaccination sans rendez-vous, tu sais, celle où on peut aller prendre un AstraZeneca, ça a joué pour beaucoup. On dit que des 69 148 doses administrées hier, plus de 16 000 sont issues du vaccin d'AstraZeneca.
Bon, on espère que ça va continuer.
Ça continue, tu vois, depuis une deuxième journée consécutive, je parle de Québec, là. De 1260 places pour se faire vacciner, ils ont trouvé preneur en moins d'une heure. C'est comme « wow ». Là, je trouve que ça aussi, j'aime ça. Confronté à une hausse record des cas de COVID, les autorités de santé publique de Québec vont vacciner les gens la nuit ce samedi. Hein, à partir de minuit, et ce, pour un 24 heures, le centre de foire va être occupé en permanence, a expliqué le responsable de la vaccination, Patricia McKinnon. Bon. Alors, tu sais, à Québec, 436 nouveaux cas, là, faut pas l'oublier.
Écoute, c'est incroyable, là. Ça arrête pas de monter.
L'Agence européenne des médicaments continue, moi je trouve que c'est du taponnage, là, mais pousse plus loin son analyse d'AstraZeneca, voir si les caillots sanguins sont reliés à ce vaccin-là.
Peux-tu finir par se brancher puis nous le dire, là, tu comprends?
Honnêtement, ils ne sont pas capables de se brancher parce que le chiffre, à mon avis, Bernard, qui est le seul qui compte vraiment, c'est que parmi les gens qui ont été vaccinés, le nombre de personnes qui ont eu des caillots sanguins est inférieur à ce qui se passe dans la population en général. Tu sais, je sais pas comment tu fais pour trouver que c'est si grave que ça. Moi, je continue de penser qu'ils se sont fait faire un job de bras, eux autres, pas à peu près, hein. Probablement.
Par les concurrents,
puis la petite politique européenne aussi. Ouais. La petite politique européenne. Au Brésil, les hôpitaux sont dans une situation critique. Il manque d'oxygène dans certains endroits. Puis là, la Cour suprême a ordonné au Sénat de faire d'installer une commission d'enquête pour évaluer la gestion de la pandémie. Bolsonaro qui continue d'exclure toute forme de confinement.
Ah, écoute, c'est un imbécile fini, lui. J'espère que les Brésiliens
On dirait que Trump a l'air d'un homme d'État à côté de ça.
C'est incroyable.
En Inde, ça, c'est triste aussi. Le plus grand producteur de vaccins au monde, on a tendance à l'oublier, là. Mais les hôpitaux ont arrêté de vacciner par manque de doses. En d'autres mots, ce dont ils auraient besoin pour eux-mêmes, ils sont forcés de l'exporter parce que Parce que le pays pourrait probablement intervenir, mais ils n'ont pas envie de perdre des investissements étrangers qui viennent avec. Là.
J'allais dire. C'est comme le Québec qui manque de sirop d'érable.
Ben, c'est...
hein? Non, mais tu sais, non, mais t'sais, je veux dire, c'est épouvantable. Puis c'est des devises qui rentrent dans l'économie indienne. Mais je vais te dire une affaire. Un pays qui produit des vaccins comme l'Inde, qui n'est pas capable d'en donner à sa propre population,
il y a de quoi qui marche pas là. En Italie, c'est intéressant. Hein? Ils ont pas réussi à cibler les groupes prioritaires comme on le fait partout dans le monde. Puis il y a un expert de l'Institut des études de politique internationale qui a dit que on aurait pu sauver des milliers de vies. Ils ont lancé leur campagne de vaccination, mais ça a pas marché, les groupes prioritaires. Tu comprends-tu? Tu penses, par exemple, que le chef de la Commission nationale anti-mafia s'est dit préoccupé par les taux élevés de vaccination de ce groupe. Les mafieux sont vaccinés, mais les autres, là, les gens âgés, puis tout ça, non. Pire encore, tu t'en vas en Toscane, les avocats, y compris des trentenaires qui ont été vaccinés avant la plupart des personnes âgées. C'est triste.
Mon Dieu, la corruption, hein?
Ah oui, monsieur.
C'est la corruption, c'est ça.
Alors, je voulais dire un mot sur l'échec de syndicalisation dans un centre de tri de Amazon en Alabama. Pourquoi j'en parle? Parce que ils appellent ça Union Drive, cette campagne de syndicalisation
oui.
avait pris une grande ampleur. Bernie Sanders s'était rendu sur les lieux. Joe Biden avait fait une vidéo. C'était devenu le point où on voulait redonner vie au syndicalisme dans le secteur privé aux États-Unis. Et il y a eu un vote. Ils n'ont pas le compte final, mais avec la marge qu'on voit à l'heure actuelle, ils vont perdre, le syndicat va perdre la bataille.
Ça, je suis déçu de ça, moi.
Pas moi.
Parce que moi, je vais te dire, tu sais, je suis capable d'être très critique des syndicats, là. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises l'être, mais moi, je suis pas un anti-syndicaliste. Et honnêtement, je pense que ça ferait du bien à l'économie américaine et ça ferait du bien à la classe moyenne américaine si les syndicats reprenaient de la force, en particulier dans le secteur privé aux États-Unis. Puis c'est du quoi? Ça serait bon pour nous autres, Luc, parce qu'on a un taux de syndicalisation plus élevé ici au Canada, en particulier au Québec.
Quatre fois plus élevé.
Si on veut resserrer un petit peu les capacités concurrentielles des entreprises de part et d'autre de la frontière, à un moment donné, il faut que les salaires et les conditions de travail se ressemblent. Et puis moi, honnêtement, une des raisons pour lesquelles Trump a gagné, là, il y a 4 ans, c'est qu'il y a eu une détérioration du tissu manufacturier dans nombre de communautés américaines qui ont vécu de la grosse industrie. Et puis, évidemment, le syndicalisme a pris le bord avec. Et puis, Amazon, honnêtement, avec tout l'argent qu'ils font, Luc, là, ils ont les moyens de mieux payer leurs employés. Puis un petit syndicat, ça aurait pu faire du bien. Ça aurait pu faire du bien à Jeff Bezos pour traiter son monde un peu mieux. C'est mon petit édito.
J'ai compris ça, Bernard.
C'est mon petit
j'ai
édito.
Pas envie de me lancer dans un débat
non,
avec toi.
Non, non.
Mais en tout cas, ça a été un échec cette fois-ci.
Bon.
Et mais ils disent qu'ils vont continuer leurs efforts de le faire dans d'autres centres d'Amazon aux États-Unis.
Je pense qu'il y a moyen de rétablir un certain équilibre. Ils sont allés trop loin dans l'autre extrême. Luc, on va s'arrêter parce que toi et moi, on va mener une entrevue avec le docteur Alain Poirier dans un instant.
Avec plaisir.
Il est le directeur de la santé publique de l'Estrie, mais il ne faut jamais oublier qu'il a déjà occupé le poste de Horacio Arruda.
Ah oui.
Alain Poirier, ben oui. Fait que ça nous donne, quelques possibilités de questions qu'on va lui poser dans un instant. Ne bougez pas.